Donc, nous allons prendre Luc, hein, chapitre 6, verset 35. Et vous allez être étonné, il y a une expression qui est quand même extrêmement importante. Je me suis penché sur l'évangile de Luc plusieurs fois cette semaine, enfin, autre part aussi, hein. Je trouve toujours une bénédiction, moi, quand j'ai mal partout, des fois c'est incroyable, il n'y a plus moyen de rester dans le lit, et bien je me mets à lire ma Bible. Et puis quand je vais dormir, je m'endors. C'est fini. Puis il y a l'huile hein, qu'on a fait avec des fleurs qui sert à quelque chose quand même. 6, verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, vous serez fils, appelés fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc les ingrats et les méchants, c'est nous, hein. Il ne faut jamais regarder vers les autres. Vis-à-vis de Dieu, nous nous comportons comme ça. Nous avons une attitude d'ingratitude. On voit souvent, quand on élève des enfants, on voit très vite comment ça se passe. Mais ce qu'il y a, si on se voyait vis-à-vis du Seigneur, c'est incroyable comment nous sommes. Quand on en a fait un peu pour lui, on croit qu'on a tout fait. C'est en ça que nous sommes méchants. Mais vous serez fils du Très-Haut. Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est la récompense ultime. C'est d'être déclaré fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Et ça, c'est un cadeau formidable. Pourquoi je prends ce thème-là aujourd'hui? C'est parce que je voudrais aborder le thème du baptême. Je l'ai déjà étudié plusieurs fois dans ma vie, mais je l'ai encore refait depuis 15 jours. En me levant la nuit, je recommence toujours les études. Toujours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante, c'est à Dieu de me dire ce qu'il veut que je connaisse. Si je vais prendre un bouquin, je vais regarder ce que quelqu'un a étudié, et puis c'est tout. Mais si je prends la parole de Dieu et que je recommence à zéro, comme si je ne connaissais rien, il va m'enseigner. C'est le principe du disciple, c'est de se laisser enseigner par Dieu. Si on fait l'intellectuel et qu'on prend des livres tout le temps, on ne fera que de l'intellectualisme biblique. C'est différent. En tout cas, si vous voulez pouvoir communiquer par le Dieu, il faut se mettre en rapport avec Dieu, toujours à son écoute, comme Marthe et Marie qui s'asseyaient. Je vous le dis, c'est très bien de pouvoir avoir des moments d'intellectualisme, mais ça ne suffit pas. Tous les disciples de Jésus n'étaient pas des intellectuels au départ, sauf Luc. Fils du Très-Haut, c'est fort important, c'est une récompense, elle est grande. Elle est grande. Vous rendez compte que le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant qui a tout fait, qui d'une infinie intelligence, d'une infinie sainteté, d'une infinie beauté, vous déclare son fils, sa fille. Vous rendez compte de ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes dans la société? Qu'est-ce que je suis dans la société? Mais quand je suis mort, deux jours après, on m'a oublié. Ce qu'il y a, c'est les factures dans la boîte aux lettres. Je vais devoir payer tout ce que je dois, et il faudra aller travailler, etc., et courir. Et quand vous voyez comment les hommes politiques, le monde nous agite, nous remue, mais ils se servent bien de nous. Évidemment, ça arrive aussi qu'on se sert d'eux, ce qui n'est pas très honorable non plus. Alors, la vraie dimension de notre vie, c'est de passer de l'état de séparer, d'excommunier, je veux dire, depuis le péché d'Adam et Ève, on a été jeté hors du paradis terrestre, et on est sans relation avec Dieu, c'est d'être remis dans une relation filiale, à part entière, par quelqu'un d'infiniment grand, le plus grand qui existe, c'est Dieu. Ça, c'est important, les amis, de savoir pourquoi on est né, c'est pour être un jour appelé fille ou fils du Très-Haut. Et si je dois parler du baptême, il faut que je mette ça devant. Autrement, le baptême devient un rite. Non, merci pour les rites. Ésaïe, chapitre 63, verset 16. On pense que tout ça, c'est du Nouveau Testament, qu'il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui parle de ceci. C'est faux, complètement faux, les amis. Dans l'Ancien Testament, le thème extrêmement prégnant, important de la filialité, existe. Ésaïe, 63, verset 16. Souvent, c'est la nuit, moi, parce que c'est le calme absolu, puis il n'y a pas de délai.
Il n'y a pas de délai. Si je dois travailler 5 heures, je travaille 5 heures, si c'est une heure et demie. Et ce qu'il y a, c'est souvent plusieurs pages. Comment Isaïe parle à son peuple, qu'est-ce qu'il veut dire, ou par exemple sur la filialité. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi j'ai étudié 3-4 dans 3-4 centres? Et chaque fois, chaque sens est important. Puis tout d'un coup, dans les rencontres, quand je vais en visite, ça me sert. Et c'est ça que je vais vous dire, c'est que Dieu est notre enseignant. Le Seigneur parle aujourd'hui quand on se met dans la parole, et quand on est dans la situation où on vit, il y a des choses qui sortent de notre bouche, elles sont préparées. Et bon, c'est évidemment pas de nous. Si on a pris le temps d'aller dans la parole de Dieu, c'est pas de nous. Autrement, on fait que du ramage personnel si on n'a pas été dans la parole de Dieu, et on apporte beaucoup de mauvaises choses avec les bonnes qu'on veut donner. Ésaïe 63, verset 16. Je regarde toujours dans ma Bible ce qui est mis là, parce que je suis encore tombé sur une belle Bible, hein, au matin, que quelqu'un m'a donnée. Il y a des traductions, carrément il y a des mots qui sont balancés, on veut que ce soit accessible à tout le monde, ça ne veut plus rien dire. Alors c'est effrayant, le toupet avec lequel maintenant on fait des éditions accessibles à tout le monde, mais il n'y a plus rien. Alors je me méfie, je regarde toujours, et des fois ben, je prends même le texte en grec, je dis mais c'est quoi pour finir, lequel qui a raison, je vais chercher le texte en grec et le dictionnaire et je regarde. Alors, tu es cependant notre père, c'est Ésaïe, 8 siècles avant Jésus, car Abraham ne nous connaît pas. Ben oui, forcément, Abraham, 21 siècles avant Jésus, et Ésaïe, 8 siècles. Il y a quand même de la distance, 13 siècles. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Donc, Israël, c'est les 10 tribus du Nord. Hein. C'est la pagaille déjà entre eux, en plus. Hein, 2 tribus au Sud, etc. Et les 10 du Nord ne viennent pas au Temple, hein, où Ésaïe est prêtre. Donc, ils n'entendent pas toute la parole de Dieu. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Donc, Dieu est notre Père, dès l'éternité. Rendez compte du thème, hein? Dans le chapitre 64, verset 7, cependant, 64, verset 7, c'est pas que dans Ésaïe qu'on trouve cette expression « Tu es notre Père ». Il y en a des autres. Mais bon, il faut faire vite hein, pour le peu de temps qui me reste. Alors, « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Pensez bien que dans le texte de la création, en Genèse, nous sommes l'argile. Adam, l'argileux, l'argileuse. Hein, et modelé pour faire un homme et une femme, tiré de la terre. Vous savez, notre vie, ça se résume à deux choses. Poussière. Un entracte entre les deux, vous et moi maintenant. Au départ, poussière. Après, poussière. Hein. S'il n'y a pas quelque chose, dans toute sa toute puissance, hein, la décision de Dieu de nous faire vivre, de nous ressusciter, c'est pas grand-chose notre vie. Hein. C'est un tas de poussière avant, un tas de poussière après. Hein. Et pendant quelques années, c'est du vent. Souvent. Alors, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, le potier a pris de l'argile et nous a formé, Adama, et il est notre père. Il y a une relation dans Dieu, envers nous, de papa. Est-ce qu'elle est en nous, vers le papa? Ça, c'est autre chose. Regardons Ésaïe, chapitre 50, verset 2. Ésaïe 50, verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Vous savez, au culte, on n'est pas nombreux depuis quelque temps. Hein? Bon, pourquoi n'y avait-il personne? Je n'ai pas demandé ce qui se passait dans le temple de Jérusalem à certains moments. Hein? Pour que Dieu dise ça. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Hein? Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? C'est fort, hein? C'est encore la même chose aujourd'hui. Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Donc, c'est un papa puissant. C'est un papa qui a de la puissance pour sauver ceux qui ne s'intéressent pas à lui, ceux qui ne veulent pas de lui. Ésaïe 65, 1. Ésaïe 65, 1. La conception de Dieu et de sa paternité est extrêmement élevée, les amis. Si vous n'avez pas eu une bonne expérience avec votre papa sur terre, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. La seule qui a de l'importance, c'est celle avec votre Créateur, l'Éternel. Si vous ratez celle-là, parce que votre papa, votre maman, ils sont dans le même cas que vous. C'est vers leur Créateur qu'ils doivent regarder. Je suis papa, j'ai 6 enfants, ou j'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que ça a d'importance pour Dieu? Mais moi, devant lui, est-ce que j'accepte d'être son enfant? Lui, il me veut comme papa, comme père. C'est là que tout se joue l'enjeu. Alors, eh bien, on peut être à ce point muré, buté, qu'on ne veut rien d'autre que soi-même. Eh bien, regardez, pourtant Dieu, lui, a la puissance, comme papa, d'agir. Ésaïe 65, verset 1. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. » Hier, il y avait une remise de diplôme. Donc, une femme et un homme d'environ 35 ans, peut-être, hein, qui ont 3 enfants, dont une petite fille à l'hôpital, gravement malade, la leucémie. Et puis, il y avait il y a un monsieur de 77 ans, 77 ans, qui était militaire dans un blocos au nord de l'Alsace pour étudier sur radar tous les avions qui passent sur la France. Il a fait tout ça toute sa carrière. Il n'a pas vu le soleil, lui, pendant sa carrière. Tous les avions qui passaient sur le territoire, ils devaient savoir d'où ils venaient, où ils allaient, le numéro, qui pilote, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire. Et s'il n'y avait pas d'identification, il avertissait son commandant-chef en envoyant les avions de chasse. Ah oui, parce qu'il peut passer un avion avec quoi? Des gros pruneaux atomiques. Donc tout doit être surveillé. Il a fait ça toute sa carrière. Ce brave Thierry était tout joyeux hier de parler. Il nous a tous fait rire, 77 ans, et sa femme, 66 ans. C'était formidable de voir ça. Et puis, dans la bande de ceux qui ont eu un diplôme, il y a un ancien CRS, dur de dur, qui a été en Corse, qui a été partout dans les coups durs. C'était un caïd, hein. Et bien, pratiquement, ça fait un militaire et un CRS qui font l'institut. Allez. Et dans l'Assemblée, il y en avait des CRS, des collègues à lui. Alors, le pasteur qui prêchait avait dit qu'il était gendarme, mais ce n'est pas gendarme. Hein, en France, un CRS, c'est autre chose. Hein. C'est très, très spécifié, policier, gendarme.
Et puis après, il a dit qu'il était devenu quoi? Chrétien renouvelé spirituellement.
CRS. Chrétien renouvelé spirituellement. C'est pour dire que vous voyez dans Ésaïe 65, verset 1, tout à l'heure, Caroline priait pour son papa, c'est la même chose. Dieu dit, me voici, me voici. Il y arrive toujours un moment, dans le carnet de rendez-vous de Dieu, pour chacun de nous, il nous montre qu'il est là. Nous avons vraiment l'art, des fois, de l'envoyer paître, hein, et de passer à côté, hein, jusqu'au jour où quoi? Il va encore le refaire quelquefois, hein? Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Franchement, nous avons le crâne dur, vous savez, des fois, le cœur dur, hein. Mais lui, il est aussi patient. Je ne dis pas qu'il est dur, il est patient. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. À la fin de la Bible,
936.
Vous avez ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. je souperai avec lui, lui avec moi. Ce n'est pas un témoin de Jéhovah. Ce n'est pas un représentant de commerce. Ok ? C'est Dieu, le Créateur, qui toque à la porte de ma vie et qui m'adresse un signal. Si j'entends sa voix, ça c'est pas normal ça. Ça, ça se passe pas comme ça, c'est toujours passé. Et là, il intervient dans ma vie. Qu'est-ce que je fais ? Je bouge mes oreilles, je ferme mes yeux, c'est bon, hein ? Je le fais quelques fois, il ira voir une autre porte. Mais ce qu'il y a, où il reviendra 20 ans après, on va venir à ça après. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'adresse la parole. Si j'ouvre la porte et que je le fais rentrer, il mange avec moi et lui, il y a une communion, il y a un partage et il y a la filialité qui s'installe et la paternité qui s'accomplit. Parce qu'elle existe toujours, la paternité en Dieu. C'est nous qui avons attrapé cette fichue maladie de ne pas accepter notre papa. Et il faut en être guéri. Il faut s'en repentir. Il faut demander pardon. Je me tiens à la porte. Alors, vous connaissez dans Luc cette parabole du fils prodigue ? Vous la connaissez ? Vous savez où elle se trouve ?
Chapitre 15.
Yavol. Vous savez, il m'est arrivé d'aller proposer des études bibliques dans une famille à Arlon. Je savais qu'ils en avaient besoin. Une des personnes de la famille en avait besoin. J'y étais quelques fois, je me suis rendu compte qu'on se foutait de ma poire, mais joliment. J'y suis pu aller. J'ai dit, Seigneur, c'est à toi de décider, c'est à toi si je dois revenir. 17 ans après, il m'a appelé, j'ai fait études bibliques toutes les semaines pendant plusieurs années. Et cette personne qui m'avait poliment entourtié pour que je comprenne qu'elle n'en voulait pas, hein, parce qu'elle ne le disait pas clairement, mais c'était tout comme, eh bien, pratiquement, après, elle était contente. Hein. Il y avait tellement de manifestations diaboliques dans sa maison, sur ses enfants et tout, ben, elle n'en pouvait plus. Alors, pourquoi en arriver à ce point-là pour rappeler quelqu'un qui sert Dieu, qui apporte la parole ? Pourquoi attendre les misères, la catastrophe ? Parce que si on ne veut pas Dieu, l'autre va venir. Hein. Il n'y a pas de problème. À l'autre, il ne s'embête pas, lui. Toute la place qu'il peut gagner, il la prend. C'est un envahisseur, un démolisseur. Alors, un homme avait deux fils. Et si vous regardez bien, ça c'est Luc 15, verset 11. Alors il y a un prétentieux qui dit, les fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Débauche, azelglia, c'est dérèglement. C'est pas forcément toujours rien que le sexe, c'est aussi tous les autres comportements. Par exemple, aller dans les bistrots et boire des coups à droite et gauche, ou être toujours en cavale avec les copains et les copines, c'est de la débauche. C'est du dérèglement. Sortir en boîte de nuit à droite et gauche et se défoncer et prendre des joints, c'est de la débauche. Et qu'est-ce qui se passe d'autre ? Changer de copain, de copine à tout bout de champ, ou alors, non, je suis marié, mais je vais sur le côté, c'est de la débauche. Mais ça, le mot dérèglement, c'est sortir des règles de vie, des règles où Dieu bénit. Hein ? Alors, regarder des saletés sur la télévision ou Internet, c'est de la débauche. C'est communier avec le dérèglement, hein, sous toutes ses formes. Lorsqu'il eut tout dépensé, donc il a gaspillé sa vie, ses belles années de sa vie, une grande famine survient dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est la famine. Hein. Il n'y a personne qui sait être heureux. Une famine morale et spirituelle comme ça, mais le pire, c'est qu'on reste sur la position. Il faut leur prêcher la repentance, mais... Lui, il va se repentir. Et comment que ça va aller ? Ben, il va tomber chez un homme encore plus égoïste que lui. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches qui mangeaient, comme mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. J'ai vu ça en Israël, dans les Alpes, on dirait des grands haricots, c'est tout brun, tout noir. On mange ça, Ça a le goût du chocolat, c'est excellent. Mais la graine est dure comme de l'acier. Hein. Impossible. Hein. Vous laissez vos dents, même les meilleures. Alors, mais les cochons, ils avalent tout, ça repart de l'autre côté. Hein. Alors, sans doute qu'ils aiment bien le chocolat. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires, d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. » Donc voilà un homme qui souffre d'avoir tout gaspillé dans sa vie. Et ce qui est important, c'est qu'on doit se rendre compte qu'on gaspille les choses les plus précieuses qu'on a reçues. En avoir honte. Hier, dans toute la foule, « Ah oui, je vous recommande la fête de la Pentecôte, là-bas, à Algrange, tous les ans. » Allez-y, celui qui n'y va pas rate des choses. Il y a des grandes rencontres entre chrétiens, il y a des échanges profonds, etc., des amitiés qui naissent. Et hier, c'était, quand c'est la remise des diplômes à l'Institut, c'est la même chose. C'est une journée extrêmement importante. Un chrétien qui veut rester seul, tout seul dans ses habitudes, et qui n'a jamais le temps de tout ça, se prive d'une multitude de grâces. Je vous le dis. Hein? Et ça fait que, pour finir, on est avec les cochons tout le temps. Parce que si on évite les enfants de Dieu, on évite les endroits où on peut avoir des échanges et des partages profonds, où le Saint-Esprit entre chrétiens, dans des entretiens, on peut approfondir la foi, grandir dans l'amour, avoir de bons amis, de vrais amis, eh bien, on va vivre avec les cochons, avec ceux qui n'en ont rien à cirer de vous de toute façon. Tant que vous avez des sous, que vous avez une certaine beauté physique, oui, mais après, vous n'êtes plus rien. Ça sert les pourceaux. Ben, ici, il en a marre. Et pourquoi qu'il en a marre? Parce que dans Jean, chapitre 16, il est clairement mis que le Saint-Esprit convainc de péché. C'est-à-dire, quoi le péché? Le mot pécha, en hébreu, c'est tirer une flèche avec un arc et c'est rater son but. Le convaincre de ratage. Tu ne vas nulle part avec ça. Tu ne vas nulle part dans ce chemin-là. Tu es en train de perdre tout. Tu es en train de tout rater. Et donc, il y a une culpabilité. Et dans les conversations que j'ai eues hier avec un jeune homme, un gars qui est ingénieur, camerounais, j'aime bien, on est amis depuis longtemps. Il a marié une Française, vraiment formidable. Ils ont trois gosses, qui, magnifiques. Et il est arrivé en grande difficulté. Hein, avec 101 ronds en Allemagne, il a dû suivre des cours et puis il a fait des études d'ingénieur. Pour finir, il a connu un pasteur français qui parlait bien l'allemand à Sarrebruck et il a connu son église à Sarreguemines, à la frontière, et puis pratiquement de là, il a fait un stage professionnel comme ingénieur à Paris, à Argenteuil, il a vécu avec sa femme là-bas, ils sont devenus chrétiens après, et puis maintenant, à Creuswald, il est pasteur. C'est un homme plein d'humour, de profondeur, extrêmement intelligent, sympathique, Eric, et bien pratiquement, et sa femme aussi, Nathalie, et pratiquement ce qui se passe, ils sont sortis, il a dit, je voyais mon père et ma mère, je voyais en Cameroun, on pratique le christianisme comme des autres pratiquent l'islam, on se croit chrétien, parce qu'on fait ci, on fait ça, on se croit chrétien. Et moi je prenais ça pour de la comédie, et j'ai refusé rapidement d'obéir à ma mère et je n'allais plus. Je n'allais plus à rien. J'étais seul parce que tout le monde suivait. Ma mère et tout. Et j'ai dit non. J'étais en révolte. Et pour finir, j'ai eu des copains dans mes études au Cameroun qui s'intéressaient à la Bible, qui lisaient la Bible. J'étais avec eux. Mais c'était non, c'est une secte, il ne faut pas y aller. Alors j'y suis quand même allé. Peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement avec ma mère, mes frères et mes sœurs, il a dit. J'aurais peut-être dû prendre. Mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'ai tenu tête, ça a été la bagarre. Et quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai retrouvé des gens aussi qui lisaient la Bible. Et c'est là, tout d'un coup, dans un groupe d'étudiants, où il y avait Roland, un pasteur, qui parlait deux langues, qui m'a expliqué la Bible, et je suis devenu chrétien. Mais il m'a dit ceci, je n'étais pas conformiste. Je n'acceptais pas quelque chose d'imposé, quelque chose c'était logique. On est chrétien parce qu'on va à la messe, qu'on fait ci, fait ça. Je suis devenu chrétien dans mon cœur après, et enfant de Dieu. Et quand, au moment où j'étais seul, j'avais 16-17 ans, je n'allais à rien, je me sentais coupable devant Dieu. Je savais que Dieu existait, j'avais besoin de personne pour le savoir, de ma vie. Je ne faisais rien de ma vie pour lui, j'étais coupable. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui aime Dieu veut faire quelque chose de sa vie pour Dieu. Et d'autre part, il y a quelque chose qui le fait souffrir, il y a comme une épée qui rentre dans sa conscience, qui lui dit, tu dois demander pardon, tu dois changer, tu dois te donner. Et c'est ce qui s'est passé ici. Verset 18, je me lèverai, donc je prends une décision, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ben oui, c'est facile de se croire croyant et religieux, si et ça, ou chrétien, ou musulman, hein, ben, ce que j'en fréquente aussi. Mais c'est rien du tout, tout ça. C'est purement de l'autosuggestion. C'est culturel. Ça nous arrange d'être ci, d'être ça. C'est culturel. Eh bien, et à un moment donné, il s'est rendu compte que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc, on voit ici que tout ce qui a été dit dans Ésaïe, je me suis révélé, je leur ai dit, me voici, je me suis laissé trouver par ceux qui ne m'aimaient pas, ne me cherchaient pas, est exact. Le père va à la rencontre de l'enfant qui se rend compte qu'il n'a jamais voulu une vraie relation avec lui. Dieu a de la miséricorde, c'est ça la miséricorde. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, etc. Bon, on sait très bien qu'il y a eu une fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réjouissance quand quelqu'un est rétabli dans la vraie relation avec Dieu. Une réjouissance où ? Dans les cieux, dans les anges, et même s'il y a des chrétiens dans la région, ils se réjouissent de voir quelqu'un qui devient enfant de Dieu. L'autre fils, regardons l'autre fils. L'autre, verset 29, il est fou furieux de ce que le vaurien, le vagabond, là, le débauché, tout ce qu'on veut, qui a bouffé la moitié de l'héritage, eh bien, il est jaloux que le père l'aime. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. On voit bien que le fils ne connaît pas le cœur du papa. On voit bien que ce fils qui applique des règles et qui est retranché, intraverti, ne connaît pas le cœur de son père. Il est intraverti. Il veut, à partir de ce qu'il est, réagir envers son père. On ne peut pas réagir en fonction de ce qu'on est vis-à-vis de Dieu. On doit réagir en fonction de Dieu à partir du moment où on renonce à ce qu'on est et à ce qu'on croit être. Dans Jean chapitre 16, c'est clairement dit que Jésus a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit qui vous convaincra de péché, c'est clair. Et de justice, c'est-à-dire d'obéissance, de sainteté et de rédemption. Voilà ce qui se passe. Le fils aîné n'est pas encore prêt. Et en croyant qu'il est en ordre, il ne l'est pas du tout. Alors le papa dit ceci à la fin de cette histoire, de cette parabole, verset 32. Il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Donc, ne pas être enfant de Dieu, c'est la mort spirituelle. Le premier sens du mot mort, c'est ça. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous devez partir. Ben, bon dimanche à vous, hein. Éphésiens chapitre 2, vous êtes à 4 à partir. Vous étiez mort par vos offenses. Alors, bon dimanche, hein? Bon après-midi.
Merci, bon dimanche, à bientôt.
Oui. si vous voulez, je peux vous expliquer la suite du texte une fois, hein, quand on se voit. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est clair, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, donc de Satan. Donc nous avons une explication de ce qui conduisait le fils prodigue. Ce qui conduisait le fils prodigue, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de séparation avec Dieu. C'est l'esprit de révolte. C'est l'esprit d'autonomie, d'indépendance que Ève et puis Adam ont adopté. C'est contaminé par Adam et Ève. Et regardez, le diable y a ajouté son grain de sel. Hein ? Oui. Ah oui.
Au revoir,
princesse.
Au revoir.
T'as une belle robe, dis donc. Hein ?
Au revoir. Dans 2 semaines.
Alors, où est l'attitude dans ce texte d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, où est le papa qui est plein d'amour pour son fils et qui court ? Ben regardez, c'est pas compliqué. Verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Avec Christ ! C'est en envoyant Jésus qu'il nous rend, il nous redonne la vie. C'est par Jésus que la vie vient. Ok ? C'est extrêmement important, les amis. Alors, Romains 8, verset 29. Si je dois parler du baptême dimanche prochain, il n'y a rien à faire. Il faut que les bases soient, les bases sur la réconciliation soient données. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance. Donc le papa, quand il était sur le toit, il savait bien que son fils qui était en train de faire le vaurien, allait un jour en avoir marre. Mais il marre au point, et il se dit, je vais l'attendre. Je vais l'attendre, parce qu'il l'aime. Et quand je vais le voir arriver, je vais lui faire comprendre que je l'aime. Je vais lui faire comprendre que je l'aime. Parce que si je lui tourne le dos quand il arrive, je vais lui casser les reins, je vais le dégoûter. Il faut que je lui montre mon amour. Eh bien, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a montré son amour. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc nous sommes destinés à devenir des frères de Jésus. Donc des enfants de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, rendus justes. Ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi glorifiés. Donc, on voit bien dans le récit du fils prodigue que quand il fait le repas, avec la belle tunique, il le glorifie. Voilà, pas mon sale fils qui est rien. Regardez, je l'aime bien quand même. Allez, on va faire un repas parce qu'il faut. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est vraiment une réjouissance totale en Dieu. Quand un pécheur revient à Dieu, moi je suis heureux de pouvoir. Quand j'ai entendu, j'ai fait un test avec un homme là, qui habite à Longwy, j'ai fait un test. Pendant 15 jours, on ne s'est pas vu. Il m'a dit qu'il aimait Dieu. Il a regardé, musulman d'origine. Il a lu toutes les questions fondamentales de Blanchard, ce titre vu, plusieurs fois. Il m'a dit tu n'as pas un autre livre pour suivre. Ah, je cherche un livre Jésus et Mahomet pour lui donner, parce que je n'en ai plus. Pour poursuivre la recherche. Il faudrait qu'il me donne des autres livres pour continuer. J'ai besoin de savoir plus. Bon, pratiquement, ce matin, ou hier soir, assez tard, il me dit, tu m'abandonnes. Tu sais, j'ai besoin de toi. Je dis, mais je sais bien que tu as des ennuis d'argent, que tu as besoin que je t'aide, mais je n'ai rien. J'ai rien, j'ai encore ma voiture en panne, et je ne sais même pas comment je vais aller rechercher. J'ai rien pour t'aider. Mais ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de connaître Jésus. Moi, je l'ai fait exprès. C'était réel, je n'avais pas le moyen de l'aider, mais je l'ai fait exprès. Je voulais savoir où j'en étais, où il vient, parce que je suis une grosse poire à croquer, ou parce que je sers le Seigneur et qu'il a besoin. Eh bien, c'est la même chose avec ce couple qui décident de se marier samedi prochain, ils ont vraiment besoin, je le vois. J'ai fait des petits tests comme ça pour voir si c'était du vrai de vrai ou pas. Parce qu'à force de se faire tromper, utiliser, faire des tests. C'est pas de méchanceté de faire des tests. Simplement de la prudence. Un peu de prudence, ça fait pas de mal. On s'est fait avoir quelquefois, souvent. Chapitre 9, verset 26 de Romains. Chapitre 9, verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Vous imaginez ? C'est important ça. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous imaginez ce qui est dit là ? L'intransigeance, le sectarisme de certains religieux juifs, et même, je pense, des disciples, des apôtres, c'est bon que Dieu les a forcés la main. Ça va être dur pour un juif de dire « je t'aime autant que les juifs hein. ». C'est dur pour un musulman de dire « je t'aime autant que les autres, que les musulmans hein. ». Parce qu'ils sont éduqués comme ça. C'est nous les bons, c'est pas les autres. Eh bien, Dieu n'a pas dit ça. C'est les hommes qui disent ça. Hein? Là où on leur disait « vous n'êtes pas mon peuple », ils sont appelés fils de Dieu vivant. Vous voyez que le titre de « fils de Dieu vivant » est une promesse faite à l'humanité. C'est en ça que la promesse faite en Genèse 12 à Abraham, que toutes les nations seront bénies en Abraham dans sa postérité, c'est ça. La postérité d'Abraham étant Jésus, toutes les nations seront bénies. Il n'y a pas d'exclusion. Quand moi je vais dans le quartier là-bas, l'autre fois Noémie vient, on va au garage, hein. La mosquée sortait, mais 200-300. Et il y a les robes, les grandes barbes et tout le reste. C'est la décharge électrique pour Noémie habitée à Gomery. Hein. Alors pratiquement, je dis donne-moi le bras, parce que moi je rentre dans la foule comme ça ne me gêne pas. Donne-moi le bras. Alors elle se sentait rassurée et c'était pour eux, c'était bien quoi. Elle aurait été toute seule, c'était différent hein, leur regard. Et donc on a traversé. Pourquoi ? Parce que des promesses à ces gens-là faites par Dieu aussi. C'est pour ça que je vais là, ce garage. Je ne veux pas aller dans un garage où j'aurai pas de problème. Je veux avoir des problèmes. Les problèmes, les vrais problèmes, amènent des enfants pour Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Et c'est ça que Dieu a obligé ses disciples à partir dans les nations. C'est ça la mission. Je porterai des problèmes parce que je veux servir mon Dieu. Il a des enfants égarés, perdus dans tout le monde, et il les veut les réintégrer dans sa famille. Ça, c'est le plan de Dieu. Et ça, c'est l'esprit missionnaire. C'est la formidable pensée de Dieu. Il ne veut pas laisser d'enfants de côté. C'est pas à nous d'exclure quelqu'un, hein, à condamner, à juger. Faire gaffe. On tombe vite dans ce machin-là. Alors, par Luc, chapitre 6, verset 19. Luc, chapitre 6, verset 19. Nous avons une de nos filles reçoit à la maison des témoins de Jéhovah. Et bien sûr, ils ont tout préparé d'avance quand ils viennent. Et Véronique n'a rien préparé. Elle l'a prié simplement et elle le reçoit. Elle se rend compte qu'ils ont tout préparé, tout étudié, ce qu'ils doivent dire et faire. Ça, c'est une désobéissance. C'est mis clairement dans l'évangile, il y a beaucoup de place. Jésus l'a dit, ne préparez pas ce que vous allez dire, c'est le Saint-Esprit qui vous dira. Et puis, n'allez pas de porte en porte, ne portez pas de mallette. Mais eux, tout est orchestré dans des carnets, même 20 ans avant, à une maison, ils savent ce qu'on a dit. Même si c'est un autre, tout est orchestré. Humainement orchestré. Et le problème, c'est que Véronique se trouve dans une attitude spirituelle d'ouverture, et eux arrivent dans une attitude très cernée, très, où ils se protègent, et où tout est cadré par leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner ? Non. Pour Véronique, il n'y a rien gagné. Pour eux, il y a gagné quelqu'un de plus dans leur église, dans leur un adepte de plus. Mais ce qu'il y a, où est le vrai enjeu? C'est que Dieu, le papa, cherche à retrouver ses enfants. C'est ça. Et qui est enfant de Dieu? C'est là la question. Est-ce un chrétien évangélique? Est-ce un protestant luthérien? Est-ce un catholique? Est-ce un musulman? Est-ce un témoin de Jéhovah? Les amis, un enfant de Dieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hmm? Alors, Luc 6, verset 19. Quand Jésus est dans la foule, hein, au verset 17, ça commence, il descendit vers avec eux, avec les apôtres, ils s'arrêtèrent sur un plateau, j'ai été à l'endroit, hein, à Capernaum, où se trouvait une foule de ses disciples, des enseignés, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et Sidon, donc une multitude de peuples. Ça veut dire, il n'y a pas d'esprit d'exclusion. Exactement, c'est ça, Isaïe 65, verset 1. Et moi, je comprends, j'admire cette attitude de Véronique, de recevoir les personnes, et d'écouter, et de répondre avec son cœur et sa foi. Et son mari va dans le jardin pour prier pour elle pendant ce temps-là. Et pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la recherche. Ils étaient venus pour l'entente et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher. Lorsqu'une force sortait de lui, il guérissait tous. Où est la clé? C'est que Jésus a la force de guérir notre âme et d'en faire d'une âme perdue une âme d'enfant de Dieu. C'est là la clé. Ce n'est ni chez les protestants, ni chez les catholiques, ni chez les témoins de Jéhovah. Personne n'a cette force de donner la vie éternelle. Jean, chapitre 1. Jésus est le sauveur. Rien d'autre n'est sauveur. Aucune institution, aucune église, aucune confession. C'est le Seigneur, le Fils de Dieu, le Jésus de Nazareth, si humble, qui a en lui cette force que la foule reconnaissait, cette force de transformer les cœurs rebelles, les cœurs égarés, perdus, orphelins ou vaniteux, tout ce que vous voulez, entraînés par le prince de l'air, de l'ombre, pour en faire des enfants de lumière. Alors, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole de Dieu, de la lumière de Dieu, de la lumière du monde, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir, en grec, c'est dynamis, ça donnait dynamite, hein? Quand M. Nobel a inventé sa foutue dynamite qui a mis le monde en l'air, eh bien, c'est pour se consoler de donner le prix Nobel, hein, de la paix, vous parlez, avec ce qu'il a inventé, il en a fait du carnage. Hein. Bon, en attendant, les hommes font toujours ça aussi, avec n'importe quoi qui est bon peut tourner mal. Hein. Alors, ici, Dieu, en Jésus, exerce un pouvoir qui transforme l'homme. Dieu, en Jésus, exerce un pouvoir qui fait d'un enfant égaré un enfant retrouvé. C'est ça que nous voyons avec le Fils prodigue. La réconciliation, le ministère de la réconciliation en Jésus-Christ. Lesquels sont nés non du sang, donc ce n'est pas par papa et maman qu'on est enfant de Dieu, ni de la volonté de la chair, ce n'est pas par un système religieux, idéologique, on t'a éduqué comme ça, tu vas rester un bon petit catholique, ou un bon petit protestant, ou un bon petit témoin de Jéhovah, un bon petit musulman. Tu seras sauvé si tu fais ça. Mais ça, c'est... c'est pas la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc Dieu se répète, hein. Mais de Dieu, c'est de la volonté de Dieu que naît un enfant pour Dieu. La parole a été faite chair, donc humaine, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Grâce, c'est quoi? C'est un cadeau immérité. On ne mérite rien avec Dieu. S'il nous aime, il nous aime, point la ligne. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ouais, tout le monde. Et de vérité, devenir vrai, parce que ce n'est pas la chose la plus importante pour nous. 70 ans, je me rends compte que trois quarts de ma vie, plus, n'ont jamais été verrés. j'ai toujours soif de la vérité. Une grosse partie de ma vie, ça n'a pas été vrai. Chaque fois, ça revient, là, ce machin du jeu qu'on appelle la chair. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Donc, quand la foule, dans Luc, chapitre 6, verset 18, hein, la foule qui vient de partout, verset 17 à 18, elle vient de partout. Jésus ne fait pas d'exclusion, mais Jésus a une force en lui que personne n'a d'autre. Personne. Ni le pape, ni un grand chef de témoins de Jéhovah, etc. Nous avons des amis qui étaient des grands leaders des témoins de Jéhovah, Francis Hubert et sa femme Catherine. Ils sont passés ici 2-3 jours, ils sont maintenant au Togo. Et ils travaillent, ils enseignent dans une université chrétienne. Il a été un grand chef des témoins de Jéhovah. Il faisait tout le tour des congrégations et il relançait, il reboutait. C'est un type dynamique avec sa femme, très consacré. Et en lisant la Bible, il s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque avec tout ce qu'il enseignait. Que ce n'était pas ça le salut. Il s'est tourné vers le Seigneur Jésus. Uniquement. Luc 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, il les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, les enseignés, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » La première clé du salut, c'est la pauvreté. Purée, c'est de se voir comme on est. C'est pas que Dieu veut nous donner des coups de pied dans la figure, nous enfoncer encore plus bas, nous casser les dents. C'est pas ça. Non. Mais on est pauvre. On est né dans le péché de notre père, de notre mère, de tous les... Adam et Ève, qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes si Dieu ne nous donne pas sa sainteté, sa vérité, sa personne en nous? C'est pour ça qu'Apocalypse 3:20, je viens, je toque à la porte, si tu entends ma voix, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi, toi avec moi. C'est quoi? La relation. La relation de Jésus avec moi est le plus grand cadeau de ma vie. La puissance de Jésus d'établir la relation perdue. Alors, dans Luc chapitre 7, verset 16, vous savez, il y avait un fils unique d'une maman qui était décédée. La pauvre veuve avait un fils, elle le perd. Qu'est-ce que c'est qu'une femme veuve dans ce pays d'Afrique ou d'Asie, où il n'y a pas de sécurité sociale. Si elle avait un fils, qu'est-ce qu'elle fait après? Moi, j'ai vu ça en Afrique. J'étais en auto, je revenais d'avoir été prêché. Et il faisait déjà un peu là. Je voyais, c'est des pauvres maisons, hein. Je voyais un caillou et je voyais une femme. Elle était comme ça, assise. Malheureusement, je n'étais pas à Gombrie parce que je l'embarquais, elle venait ici. C'est pas par fantaisie que je dis ça. C'était automatique, je le faisais. Et dire, Seigneur, que je suis dans l'auto de quelqu'un d'autre et que je vais devoir rentrer. Et m'endormir en sachant qu'elle est là sur un caillou. Le voyage après, j'étais avec Bénédicte. Il y en avait un qui dormait à terre devant notre porte. Là, on a réagi tous les deux. Parce qu'il était à notre porte, couverture, oreiller de notre lit, et partager notre repas. On ne peut pas être enfant de Dieu sans se comporter comme un fils de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu et a de l'amour et de la miséricorde. C'est clair. Alors chapitre 16, verset 16. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous l'esprit de miséricorde, de compassion et de vérité. L'esprit d'amour de Christ.
Quel chapitre ?
Luc chapitre 7, verset 16. Quand le Fils ressort du cercueil et qu'il se lève de cette pauvre veuve qui tout compte fait son fils, ça sera sa sécurité. Ça sera sa sécurité sociale, ça sera tout. Mais c'est aussi son amour, l'objet de son amour, son fils. C'est tout. Elle perd tout en perdant son fils. Eh bien, pratiquement, elle le retrouve. Hein? Jésus a dit au verset 14, « Je te le dis, jeune homme, lève-toi. » Le mort s'assit, se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. » Ce n'est pas le mot prophète qui m'intéresse, parce qu'il y en a déjà eu des autres, des prophètes. Il y en a encore eu après.
Ça fait penser quand même à Élisée. Hein. Élisée aussi, la guerre et la résurrection.
Dieu a visité son peuple. Hein? C'est plus qu'Élisée et Élie, oui. Hein? C'est vrai qu'il y a eu des guérisons chez Élie et Élisée, c'est des grands prophètes. Tous les signes de Jésus, on les retrouve chez ces deux-là, c'est vrai. Eh bien, Dieu a visité son peuple. Donc, Dieu vient dans son peuple. Pour quoi faire? Pour le regarder, le laisser? Non. En principe, l'Église et les membres de son corps sont des instruments de sa compassion et de son amour pour les autres. Donc, j'insiste là-dessus. Je vais parler du baptême dimanche prochain. Devenir chrétien, c'est devenir les membres actifs du corps de Christ. C'est devenir les instruments de la grâce de Dieu sur cette terre, maudite par le péché, détraquée. Et ça redonne espoir aux hommes, à cette femme. Pour l'amour de tous, pour l'amour de tous, sans distinction. Au chapitre 6 de Luc, verset 27 à 35, et puis j'arrête là aujourd'hui, mais qu'on ne me parle pas d'un baptême, de n'importe quelle église qu'il soit, si ce n'est pas d'un vrai enfant de Dieu, si ce n'est pas de quelqu'un qui est travaillé par Christ tous les jours, c'est de la comédie, ça ne sert à rien. Luc 6, verset 27. Je vous dis à vous qui m'écoutez. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. J'écoute Jésus. Oui, j'écoute où? Ah ben oui, à Arlon, cette dame après 17 ans qui me rappelle, c'est quand même drôle à vous. On a l'impression que Dieu vous parle. Ah oui, moi j'ai jamais eu cette impression-là. Ben écoutez, lisez votre Bible tous les jours, vous verrez, il vous parlera. Ben oui, là, qu'est-ce que vous voulez? Il en est passé des heures entre lui et moi, grâce à la Bible. Vous savez, je parlais hier soir, on était Bénédicte et moi pour la réunion de prière ici. À un moment donné, après la prière, on a parlé de l'enlèvement de l'Église, des chrétiens. Quand Jésus, Dieu va donner l'ordre au Saint-Esprit de se partir de la terre, que l'Église est enlevée. Comme il est sorti dans Ézéchiel, on a lu les textes, du temple de Jérusalem. Il est parti. Ézéchiel l'a vu. Bon, pratiquement, quand Dieu donne à l'ordre au Saint-Esprit de se retirer, et sa période de tribulation, cette année, avec Satan, quand le Saint-Esprit revient, il revient tout de suite, parce qu'il n'a pas fait accord avec son Père. Tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont enlevés. À l'instant même, celui qui est habité du Saint-Esprit disparaît. L'autre à côté, mais ce qui est passé, je ne le retrouve plus. Je vais faire le tour de la parole, je ne le retrouve pas. Ben, il était dans le bus à côté de moi, il n'est pas là. Ben, je dormais, il est parti où elle est partie. Où est-ce qu'elle est? Je fais le tour? Je fais un appel à la police? Non. Qu'est-ce qui reste sur terre? Que des hommes qui se sont passés du Saint-Esprit, qui n'ont pas voulu vraiment être enfants de Dieu, mais quand ils partent, qu'est-ce qui traîne sur les trottoirs là où les enfants de Dieu étaient? Ça, il va entraîner partout, parce que les chrétiens n'auront pas le temps de l'apprendre. De toute façon, ils sont en face de la parole de Dieu vivante, incarnée devant eux, en Christ. Vous n'avez qu'à lire Apocalypse chapitre 4 et 5. Donc, il va traîner des bibles partout, et tous ceux qui restent et qui ont craché dessus n'auront qu'à chercher. Et ils vont voir entre Satan ce qu'il fait. Est-ce que Jésus dit? Et il y en a encore qui vont se convertir, mais au prix de leur vie, parce que Satan ne va pas leur faire le cadeau. La seule chose qui va leur rester, c'est la parole de Dieu. Que tous les chrétiens, tout d'un coup, profitent, n'ont pas eu le temps de l'apprendre. De toute façon, ils n'ont pas le temps de l'apprendre, ils l'avaient dans leur cœur. Donc, c'est extrêmement important de se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de croire que Dieu n'aime pas le pécheur, le rebelle. Puisque quand l'Église s'est enlevée, quand le Saint-Esprit est reparti, il traînera des millions d'îles partout. Donc Dieu a laissé un signe de son amour. Et ce n'est pas à nous de dire que Dieu nous a abandonnés. C'est nous qui avons abandonné Dieu si nous n'avons pas pris à temps la bonne décision. Je vous avais dit d'aller dans Luc, et chapitre 6, verset 27. Je vous dis à vous qui m'écoutez, donc c'est ça, m'écouter, ben, il faut entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Hébreu, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle aujourd'hui. Dans Hébreu, chapitre 6, 7, 8, comment qui parle Dieu aujourd'hui? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Combien de fois nous, on a ici eu des gens qui nous ont roulé? C'est pas pour ça qu'on a arrêté. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien celui qui s'en empare. C'est sur ce verset-là, moi, que je me suis converti à 18 ans. Au bord du chemin, je commençais les études d'ingénieur industriel à Arlon. Je travaillais, je coupais les arbres dans le talus, les buissons, tout ça. J'étais avec un garçon plutôt catholique, moi pas trop. J'avais fait l'Athénée et tout ça. Alors, pratiquement, une personne dont les Allemands avaient tué la femme, le mari et les trois frères devant elle, qui étaient complètement ravagés. Et à ce temps-là, on ne les enfermait pas dans les hôpitaux, parce qu'il n'y avait pas assez de sous pour faire des hôpitaux psychiatriques partout. C'était très rare, c'était souvent des bonnes sœurs, des frères religieux qui avaient des hôpitaux psychiatriques, parce que c'était des bataillons de main-d'œuvre gratuite. Il y avait juste un médecin ou deux à payer, mais c'était de la main-d'œuvre gratuite avec les religieux, et on enfermait les cas les plus graves, mais là, elle se trimbalait. Elle était horrible à voir, ça faisait peur. Et je dis, elle va encore demander des sous, moi je n'ai pas, on retrouvera tout dans son lit, dans ses chaussettes. Je ne lui en donne pas, j'ai besoin pour mes études. Le copain à côté me répond, écoute, quand Jésus, quelqu'un demandait quelque chose à Jésus, il lui donnait, sans demander des comptes, puis il continue de travailler. Et moi, dans les minutes qui ont suivi, j'ai demandé pardon à Dieu. Moi qui me croyais gentil et bon, Seigneur, je ne suis rien du tout, j'étais méchant. Et mon cœur n'est pas vrai. Je te demande pardon. Et dans les minutes qui ont suivi, j'avais la certitude que Jésus était en face de moi et me regardait. Et qu'il était infini en amour et en sainteté. Et que j'étais rien du tout. Et je me suis battu pendant 3 mois contre, parce que je savais que si je l'acceptais, ma vie ne m'appartenait plus. Mais au bout de 3 mois, j'ai accepté. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ça a été la bagarre générale. C'est pas marrant de devenir chrétien, mais c'est quand même meilleur que de ne pas l'être. Hein ? Meilleur que de ne pas l'être. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voyez ? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande aux fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Ben non, c'est ça. C'est ça que moi j'avais compris. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez, il vous sera donné. Vous voyez cette règle? J'étais un enfant bien sage, bien éduqué. J'avais fait mes études. Et j'étais prêt certainement à me battre comme tout le monde pour avoir ma maison, mes biens et tout, une famille, tout rangé tip-top. Et j'ai la tête assez dure, je l'aurais fait jusqu'au bout. Comme pas mal de gens. Mais quand Jésus me rentre dans le chou comme il l'a fait, ce jour-là, par la parole du copain, lui, il a mis le feu aux poudres. Eh bien, c'était impossible que je vive comme je l'avais prévu. Il fallait que je vive comme lui l'avait prévu. Pas facile, hein? Je vous dis que c'est pas facile. C'est m'arrivé de passer devant un crucifix dans ma chambre et dire, depuis que je te connais, en regardant le crucifix, je n'ai que des emmerdes. Tu aurais mieux fait de me laisser comme j'étais. Je me mets dans le lit, je mets les couvertures, et puis une voix me dit dans mon cœur, dans mon âme, tu es injuste. Je ne t'ai jamais fait du mal. À ce moment-là, vous savez, la rage, elle fond. Et, à un moment donné, je dis, pardon Seigneur, je ne sais pas aimer les autres. Je veux les aimer, je voudrais qu'ils soient comme je veux. Alors je les aimerai. Mais toi, tu aimes tout le monde comme on est. Apprends-moi à aimer les autres comme ils sont et pas comme je les veux. Demain matin, Seigneur, aide-moi, je vais commencer. Je suis comme un petit bateau avec une voile, mais la voile est entourée alentour du mât, elle est liée. Je n'avance pas, Seigneur. Même que j'ai lu la Bible, que je te connais, je n'avance pas. Alors, Seigneur, je déplie la voile. Je m'endors, tu souffles dedans. Et vous savez que, quelques mois après, quand j'ai eu fini l'école normale, les copains m'ont dit, c'est bizarre, il y a un jour, au matin, tu n'étais plus le même. On s'est toujours demandé, entre nous, qu'est-ce qui t'était tombé sur la tête. Tu n'étais plus le même. Qu'est-ce qui n'était plus le même? Mon cœur, mon âme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a la force de transformer mon cœur, a la puissance de faire d'une pierre un enfant à Abraham. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, mais regardez au verset 45, Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Mais ça, on peut le prendre pour de la confiture, du miel, non. Le bon trésor de mon cœur, c'est Jésus. C'est le Christ. C'est quand il est dans mon âme. Alors l'homme bon tire de bonnes choses de Jésus. De sa vie en Jésus, pour Jésus. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire quoi le méchant? Ben, simplement celui qui est humain, qui se repose sur lui-même. Oh, tu peux être bien, et puis beaucoup d'égoïsme. Hein. Juste assez pour avoir bonne impression de soi-même. Basta. Hein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ma bouche peut parler si Jésus abonde dans mon cœur. Ma bouche peut parler si Jésus abonde dans mon cœur. Vous ne pourrez jamais parler de Jésus à quelqu'un si Jésus n'abonde pas dans votre cœur. Je vais faire un petit placard, vous n'aurez jamais le toupet, ni la force, ni la joie de parler de Jésus aux autres. Ça sera vraiment accidentel le jour qu'un autre va vous pousser dans les recoins. Mais toi, t'es quoi? Toi, tu fais quoi? C'est quoi ta croyance? Il pousse 20 fois, puis tu dis quelque chose. Mais moi, je vais vous le dire, je suis tombé sur une famille musulmane. Milan est venu avec moi. Hein? C'est des amis, un ami de Tanger, c'est la famille là-bas où la jeune fille est morte. Hein. Ils ont dit, on sait ce que vous avez fait pour notre oncle. Ben oui, il avait 15 jours dans les bois, sans manger et tout. On l'a aidé et tout. Et puis, il a mangé. Pour une fois qu'on est un vrai chrétien, on tient, on va le faire parler. Alors, vous trouvez normal que Jésus soit mort sur la croix pour vous, tous les chrétiens? Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Mais je dis, ça, c'est pas le christianisme. Hein. Je m'excuse. Hein. Il s'appelle Oussama. Oussama, c'est pas l'évangile, c'est pas le christianisme, ça. C'est de la religion, c'est de l'hypocrisie. Si quelqu'un a confessé son péché devant Dieu, qu'il a cru que Jésus est mort sur la croix pour lui, il accepte de vivre comme Jésus, il applique sa parole, il renonce à son péché. C'est ça le chrétien. Ah, enfin, vous l'avez dit. Parce qu'il l'avait déjà lu. Et il l'avait déjà lu. Ah, enfin. Ben, je travaille au boulot. Il pratique l'islam, le garçon. Mais il est en recherche. Mais c'est un carré, hein. C'est un géant, hein. Quand on est en face, on ne peut pas se débiner. Alors, quand je suis au boulot, que je travaille avec les autres, ils me disent, je suis chrétien. T'es chrétien, toi? Dis-moi un peu ce que c'est. On leur dit, t'es un comédien, t'es pas un chrétien. Il a le courage de le dire. Eh bien, s'il faut que des gens viennent dénoncer les faux chrétiens et qu'ils viennent d'autre part, il faut s'attendre à des changements dans notre pays. Faisons gaffe à nous de tomber sur quelqu'un qui aime Dieu, qui n'est pas encore avec Jésus, mais qui veut le connaître et qui vous tape le missile en plein. Vous devez être prêt. Les temps ont changé et vont encore changer. C'est pour ça que je vous le dis. C'est de l'abondance du cœur que vous parle. C'est si le Seigneur Jésus est abondamment en nous, dans toutes ses bénédictions et dans ma vie, je peux en parler, pas de problème. Même l'autre en face se taira et vous écoutera. Alors, je termine pour ça. Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Luc 6, 46. Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Vous imaginez? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. 1. Vient à moi. Donc, à la personne de Christ. Pas un bidule ecclésiastique religieux. 2. Entendre mes paroles. Ça, c'est important. Pour les entendre, c'est comme je vous l'ai dit à la dame d'Arlon, pour que les gens se rendent compte que vous entendez Jésus, il faut le lire. Et ils voient bien que vous l'entendez. Puisque, au moment donné où vous discutez, vous n'êtes pas prêt, mais vous allez sortir quelque chose parce que vous l'avez entendu. Vous n'avez pas besoin de préparer, ça vient de votre cœur. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien saura si ça vient de votre cœur parce que vous entendez Jésus, ou si c'est du plaquage, du vernis, de l'artificiel, une étiquette. Ça, il ne s'y trompera pas. Et quand on a des enfants et qu'ils naissent et qu'ils grandissent, c'est la même chose. Devant un gosse, il sait faire la différence. Alors, la deuxième étape, entend mes paroles. Troisième, les met en pratique. Il les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, poser le fondement sur le roc. Donc vous voyez, creuser. Je n'ai jamais regretté de m'être marié à 32 ans. Le mariage, c'est quelque chose de si difficile à réussir. Mais vraiment, c'est quelque chose de difficile. C'est en parallèle avec la foi, c'est deux choses. C'est l'Everest. Eh bien, pratiquement, si vous avez creusé, vous êtes préparé réellement pour que l'existence que vous avez en vous soit profonde, sérieuse. Quand vous serez avec quelqu'un, vous allez pouvoir vivre avec. Vous allez pouvoir résister aux différences, aux conflits. Vous allez pouvoir résister aux sympathies et antipathies, aux humeurs et tout le reste. Parce qu'il y a du rocher en dessous. Mais s'il n'y a rien en dessous, alors, vous avez vu cet enseignement? Cet enseignement, c'est la base de la vraie vie chrétienne. C'est pour ça que dimanche prochain, j'aimerais bien parler de la vie dans le baptême. Le baptême de Christ à la croix, le baptême de chrétiens en Christ, pas dans l'eau. L'eau, c'est... Oui, bien sûr, il faut passer par l'eau. La dernière étape, c'est la photo pour être sur la carte d'identité, ça, le baptême dans l'eau. Mais, enfant de Dieu, fils de la résurrection, fils du Très-Haut, ça c'est le vrai cadeau que Jésus est venu sur terre pour nous faire, et encore aujourd'hui. Fils de Dieu vivant, fils de la résurrection, fils du Dieu Très-Haut. Et plus de la résurrection, on y reviendra. Parce que pour devenir enfant de Dieu, c'est pas parce que j'ai envie de devenir enfant que je le deviens. C'est pas parce que je fais des efforts moraux, spirituels. Non. C'est parce que fils de la résurrection, c'est parce que Jésus est mort pour mes péchés. Et qu'après sa mort, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'esprit de résurrection. Je peux être transformé. Fils de la résurrection, c'est ça. Il n'y a pas d'enfant de Dieu avant la mort et la résurrection de Jésus. Il y a des croyants. Mais à partir du moment où j'ai accepté que Jésus est mort pour mes péchés, j'accepte sa parole, son autorité, il faut que je sois baigné avant l'eau, baigné dans la puissance de son Saint-Esprit. Fils de la résurrection, fils de la nouvelle vie. Voilà le vrai évangile, je l'espère, à la portée de nous tous, les amis. Et surtout, partageons cette richesse de la résurrection avec les autres. C'est extrêmement